9h, le talk.
Julien Comelli, Anne-Laure Ganac et Geneviève Bridel dans la radio sur la première pour parler de l'intimité dans le monde politique, pour parler d'une mini-série tirée d'un roman de Stephen King et pour décortiquer aussi ce livre consacré à la correspondance de Rudyard Kipling, livre intitulé « Mes petits chéris, lettre inédite et délicieuse à ses enfants ». Hein, Geneviève ?
C'est chez Arléa,
ouais,
en
on,
effet.
On sait que l'auteur du livre de la jungle, on sait de lui qu'il est drôle, qu'il est aussi sérieux, qu'il est l'auteur du fameux poème « Si tu peux, blablabla, bla, 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 alors tu seras un homme, mon fils ». Mais on considère quand même Kipling comme l'apôtre de l'impérialisme. Or, ce recueil vient nuancer ce jugement, Geneviève.
Oui, effectivement, et dans ses lettres, il en a écrit, il faut le savoir, plus de 200 entre 1906 et 1915 à ses enfants. On sent une sélection faite selon un parti pris, celui de montrer la tendresse d'un homme qu'on considère comme un militariste bouché, en tout cas. Ce parti pris, c'est celui de Thierry Guilliboeuf, qui donc coordonne la publication de cet ouvrage. Et on découvre surtout dans une Angleterre quand même assez coincée, un homme qui sait exprimer des sentiments hyper tendres. Toutes les signatures au bas de ses lettres, c'est « Votre père aimant, avec amour, toujours ton papou, particulièrement affectueux, ou alors nous t'envoyons, maman et moi, des tonnes d'amour, etc. » Et puis on sent de l'écoute de la part de Kipling. Il réagit toujours dans ses lettres à celles que lui ont adressées ses enfants. Il s'interroge sur leur morale, sur leur santé, sur leurs besoins, sur leurs inquiétudes. Il faut savoir que lui-même a souffert comme gamin parce qu'il a été envoyé des Indes où habitaient ses parents en Angleterre très jeune. Il avait 6 ans dans une famille pour aller dans une grande école, une future grande école et d'abord un pensionnat, et ça l'a rendu très malheureux. Donc on comprend mieux cette sollicitude, et en fait la préface du livre nous montre plein d'aspects ignorés de Kipling, notamment le fait qu'il a perdu une toute petite fille très jeune. Elle était née avant les 2 enfants auxquels il écrit, qui sont Elsie, Birdie, oiseau, et puis John, qui l'appelle vieil homme, old man.
Ceci dit, quelles que soient ses opinions politiques, Geneviève, on aime ses enfants. Être impérialiste, a priori, ça n'empêche pas d'être un bon père.
Non, c'est vrai, mais évidemment, ici, on n'entend pas ici, je parle du recueil des lettres, on n'entend pas les opinions politiques de Kipling. Par contre, on sent très bien qu'il a un complet mépris de tout ce qui touche à la reconnaissance sociale, aux différences de milieu, de classe, aux mondanités, au décorum. Il a beaucoup de dérision par rapport à tout ça, et ça se voit notamment dans une lettre où il raconte à ses enfants comment il a été fait docteur honoris causa à Oxford, et la garden party qui a suivi cet épisode. Et il dit « Maman portait sa robe de soie bleue et elle était tout simplement adorable. Je devais porter ma toge et ça me donnait l'impression d'avoir oublié notre éponge de toilette en allant prendre un bain à bord du bateau. » Et puis il faut savoir qu'il y avait plein de petits dessins dans ses lettres, et souvent assez comiques. Il les illustre lui-même. Il y a un autre récit de la remise du prix Nobel qu'il a reçu en 1907, et où il est très content, dit-il, d'échapper à toutes les mondanités parce que en Suède le roi vient de mourir. Il faut savoir que Kipling était quand même le premier à avoir eu le prix Nobel, le premier britannique à avoir eu le prix Nobel en 1907, et il avait 42 ans.
Anne-Laure Ganac.
Oui.
Oui, vous êtes là, c'est bien. Je ne vous voyais plus.
Non,
mais dans cette idée juger l'œuvre et pas l'homme, ce que je disais tout à l'heure, on peut être impérialiste, avoir des idées qui ne correspondent pas à ce que pense la majorité.
Mais on peut être un bon père.
C'est un peu juger l'œuvre et pas juger l'homme, c'est ça?
Oui.
C'est possible.
Oui, déjà, on peut se demander pourquoi de quel droit est-ce qu'on jugerait l'homme finalement derrière l'artiste, hein? Qu'est-ce qui nous autorise à le faire depuis notre point de vue de lecteur ou de spectateur d'une œuvre? Puis surtout, ça reviendrait à juger une époque, hein? Vous le dites, il appartient à une autre époque. C'est peut-être justement l'occasion de se rappeler que oui, on n'est pas fait d'un bloc, hein? Ou alors si on est fait d'un bloc, il est multifacette.
Voilà.
C'est ce que Kipling nous prouve, et peut-être aussi que ça nous révèle une certaine idéalisation de l'artiste. Toujours, on aimerait qu'il soit absolument brillant sous toutes ses facettes, justement en oubliant les parts d'ombre, comme s'il devait être finalement un demi-dieu, hein, ou voire un dieu. Et puis Moi, je pense aussi à autre chose, c'est quel est le travail du lecteur ou du spectateur quand il découvre une œuvre. On pense par exemple aussi à Céline et ses écrits antisémites, combien d'artistes, comme ça, ont des idées qui peuvent être jugées. Je pense à Cocteau, par exemple, qui disait que le travail pour lui du lecteur, du spectateur, c'était de redevenir l'enfant qui regarde l'œuvre, qu'il retrouve cette innocence, donc qu'il perde ce jugement-là.
Est-ce que... Pas de préjugés, en
voilà,
somme.
D'essayer de se débarrasser de ses préjugés quand il observe une œuvre. C'est un travail vraiment compliqué, parce qu'on est effectivement fait pour juger, pour apporter nos points de vue comme ça sur une œuvre, mais c'est peut-être aussi l'une des fonctions de l'œuvre d'art, c'est de nous ramener à cette forme d'innocence, au moins le temps de regarder l'œuvre.
Mmh. Ouais, Julien Comelli.
Oui, effectivement, quand on pense à Kipling au cinéma, on pense évidemment au Livre de la Jungle, dont il existe des dizaines d'adaptations. Moi, je recommanderais un autre film qui s'appelle L'homme qui voulut être roi, de John Huston, sorti en 1975 avec Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer. Un magnifique film d'aventure à l'ancienne, comme l'Angleterre savait en faire dans les années 70. C'est vraiment formidable. Et c'est une des rares adaptations d'un livre de Kipling autre que le Livre de la Jungle au cinéma.
Oui, c'est vrai. Ouais,
parce que quand on parle effectivement de l'œuvre d'enfant ayant vu, comme beaucoup de monde, le Livre de la Jungle, effectivement, on n'a aucune idée des idées du type qui a écrit l'histoire.
Ah, mais il y a toutes sortes de théories qui disent que Mowgli, ça serait le sauvage avant l'éducation, avant toutes les belles valeurs apportées par le colonialisme, etc.
Les gens continuent d'analyser ces dessins animés, c'est absolument dingue.
Oui, mais c'est toujours troublant. C'est à quel point est-ce que nos valeurs vont entrer en contradiction avec les valeurs de l'artiste qui est derrière l'œuvre.
Le livre s'appelle Geneviève Bridel, Mes petits chéris, lettres inédites et délicieuses à ses enfants. Vous disiez tout à l'heure 200 lettres, c'est quand même beaucoup. Hein. Kipling, il raconte vraiment ce qui leur arrive à lui et à sa femme, parce que ses enfants sont loin, c'est ça?
Exactement, parce que ils ont reproduit, et ça c'est quand même le côté d'Angleterre comme il faut, je dirais, plutôt upper class, de classe aisée. Ils les ont envoyés également dans des pensionnats qui sont très chics, etc. Donc ses enfants sont loin de la maison. Et on sent une certaine éducation victorienne, par exemple, quand Kipling dit à son fils, d'après ce que je peux en juger, tu t'es comporté comme un homme quand tu as éprouvé le mal du pays. Je constate que tu n'as pas pleuré comme un veau et jeun, mais que tu as tenu bon avec sérénité, bon garçon. On croit entendre le good boy. Et c'est vrai qu'il a quand même pesé sur la vie de son fils à tel point qu'il a tout fait pour le faire intégrer l'armée au début de la Grande Guerre, alors que le jeune homme avait été réformé pour des raisons de myopie, et son fils a été tué lors d'une bataille en 1915. Ça a dû ébranler énormément Kipling, qui s'est démené ensuite pour qu'on conserve le souvenir des soldats anglais pendant la Grande Guerre, et qui a même écrit dans un poème: si quelqu'un veut savoir pourquoi nous sommes morts, dites-leur parce que nos pères ont menti.
Ouais, c'est terrible ça, mais c'est peut-être aussi révélateur d'une espèce de faillite des idées de la fin du 19e.
Voilà, c'est exactement ce qu'on disait par rapport à resituer les choses dans l'époque. Il y avait une autre vision du monde, il y avait une autre sensibilité, ça se sent dans un voyage de Kipling, par exemple, au Canada, où il est fasciné par tout ce qui touche à l'industrie baleinière. Il se fait tout expliquer comment on utilise la baleine de A jusqu'à Z, sans aucun état d'âme. Pareil pour quand il parle de la chasse. Il y avait une autre conscience aussi de la souffrance animale. Les choses ont beaucoup évolué finalement au XXe siècle. Et puis c'est vrai que Kipling reste quelqu'un d'extrêmement raisonnable. Il ne prône pas de sentiments méprisants ni dominateurs, et il manifeste dans toute sa littérature, comme dans ses lettres, une immense capacité d'empathie, et pas seulement vis-à-vis des enfants. Il faut par exemple lire Simple Conte des Collines. C'est pour adultes et c'est très bien.
Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans être qu'un penseur.
Et ça, puis, c'est une des strophes.
Une des strophes
tu seras
un homme, mon fils. Beau poème, c'est un peu long à retenir par cœur, mais ça peut valoir la peine pour briller en société, par exemple, et pour réfléchir aussi un peu.
Mise en musique par Bernard Lavilliers à l'époque, donc c'est peut-être une manière plus simple de se familiariser.
Écouter en musique, ouais. Mes petits chéris, lettres inédites et délicieuses à ses enfants, recueil publié chez Arléa sous la direction de Thierry Guilliboeuf. 7h42 sur la première. Imaginez. Vous avez la possibilité d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Et en plus, vous pouvez obtenir des renseignements sur les présumés responsables de ce présumé complot. que feriez-vous ? Eh bien, cette question est au centre d'une mini-série TV adaptée d'un roman de Stephen King. Le titre est le même à l'écran que sur papier, 22-11-63, 22 octobre 1963... connaît la date.
Novembre,
oui, bien sûr. La production est assurée par Gigi Abrahams, responsable de succès tels que Lost ou Person of Interest quand même, mais aussi réalisateur des derniers épisodes cinématographiques de Star Wars et Star Trek. Julien Comini, comment commence cette histoire de 22-11-63 en référence à la date de l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 63?
Alors c'est l'histoire de Jack Epping, interprété par James Franco, qui est un professeur d'anglais dans un collège d'une petite ville du Maine et qui mange régulièrement dans un diner, un petit snack, chez son ami Al Temperton, interprété par le grand Chris Cooper. Et puis, il voit disparaître ce personnage qui va dans son arrière-boutique deux minutes et il revient très rapidement, mais il a l'air au bout de sa vie, l'homme a vieilli. Vraiment, il ne peut plus en avant et Jack ne comprend pas ce qui s'est passé durant ces deux minutes. Et Al ordonne, plutôt que de lui faire une grande explication, ordonne à Jack de rentrer dans un placard qui est en fait une faille temporelle qui propulse quiconque, s'y glisse, le 21 octobre 1960 à 11h55.
Bon, on dit comme ça, ça paraît un peu faiblard comme attaque, non?
Ouais, c'est pas très funky, je vous l'accorde. Mais rien à voir avec la machine à démonter le temps. Hein, une comédie potache avec John Cusack, qui était sortie il y a quelques années, où un jacuzzi faisait office de DeLorean et propulsait ses occupants au cœur des années 80 dans une station de ski.
Non, très dangereux, les jacuzzis.
Très dangereux. Non, le point de départ peut paraître easy, mais ça ouvre vraiment à une intrigue aussi passionnante, palpitante qu'originale.
Ouais, le film là avec le jacuzzi qui emmène dans une station de ski, ça s'appelle La machine à démonter le temps. Bon, il faut dire que le personnage de Al Templeton a fait de cette brèche temporelle une véritable quête. C'est un peu comme une obsession à vouloir changer le passé, ce qui se cache quand même souvent derrière ces films sur le voyage temporel.
Ben, comme il réalise qu'il atterrit systématiquement à l'automne 1960, il y voit un excellent moyen d'anticiper le meurtre de JFK, parce qu'il estime que si JFK avait survécu, peut-être qu'on n'aurait pas eu la débâcle du Vietnam. Et puis comme il a des tonnes de documents actuels sous la main, eh ben il sait exactement qui il peut suivre en priorité, quelle piste suivre, quelle personne espionner. Par contre, le problème, c'est qu'il commence à être vraiment trop vieux. Il est un peu au terme de sa vie, il a un cancer, et donc c'est une espèce de passation de pouvoir qui va faire à Jack Epping pour le faire continuer cette quête et essayer d'empêcher cet assassinat.
Alors vous le disiez à l'instant, Julien, le passage temporel amène systématiquement la personne impliquée au même instant du passé. Il peut pas choisir quand il arrive.
Il ne peut pas choisir, il arrive toujours le 21 octobre 1960 à 11h55. Par contre, le deuxième problème, c'est que si on revient dans le présent, admettons qu'on est en train de se rendre compte qu'on est sur une mauvaise voie, on dit on revient et puis on va repartir, mais non, on repart toujours le 21 octobre 1960. On ne peut pas réintégrer le passé au moment où on l'a quitté. C'est un peu le principe d'un jour sans fin. Et puis, le temps ne s'écoule que dans le passé aussi. Que vous ayez passé une heure, une journée ou une année, cela correspond toujours à deux minutes dans le présent. Les personnes, par contre, vieillissent dans le passé. C'est pourquoi Al Templeton est au bout de sa vie, même s'il a passé que deux minutes pour Jack Epling dans le passé.
Moi, je vous fais une confidence. J'adore ces trucs de voyage dans le temps. Il y a toujours une faille temporelle. Ça fait des discussions sans fin. Oui, mais alors si on change le passé, ça veut dire que peut-être que nos parents n'ont pas vécu.
Bah
donc
oui, exactement.
On doit disparaître immédiatement, tout ça. Et puis, un organac derrière tout ça. Il y a plus particulièrement dans cette série-là, dans le roman de Stephen King qui en est à l'origine également, cette fascination pour l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy des décennies plus tard.
Oui, alors qu'il y a un meurtrier, Oswald, que plusieurs enquêtes officielles tiennent pour coupable. Il y a quantité quand même d'articles, de livres parus pour dénoncer divers complots qui accusent tour à tour les castristes, les anticastristes, l'URSS.
Il y a un super film d'Oliver Stone qui est révisionniste au possible.
L'extrême droite américaine, bref. Et donc pourquoi cette fascination continue? C'est qu'effectivement, il y a quand même une absence d'image convaincante. On a juste ce film amateur de Zapruder. L'absence de procès aussi, puisque Oswald, le criminel, est mort deux jours plus tard. Donc il y a des trous. Alors vous savez, vous connaissez cette fameuse phrase, la nature a horreur du vide, qui serait attribuée à Aristote. Alors on sait aujourd'hui que c'est faux, l'atome notamment est composé à 99% de vide, donc la nature aime beaucoup le vide. En revanche, peut-être que notre esprit ne supporte pas le vide et donc fait appel à l'imagination comme ça pour venir combler ces trous, combler ces vides, ces blancs qu'il y aurait notamment dans cette affaire-là, d'où peut-être cette profusion de livres, de films, de séries maintenant sur cet assassinat.
Ouais, surtout Julien, que ce qu'on apprend, alors moi j'ai pas vu la série mais j'ai lu le livre il y a quelques années maintenant, on ne change pas impunément le passé, c'est vraiment le message qui passe à travers cette histoire-là.
Voilà, alors à chaque fois que notre héros tentera de faire une manœuvre pour empêcher un événement événement afin de rétablir un semblant d'ordre par rapport à des choses dramatiques survenues, le temps semble s'en apercevoir et provoque des catastrophes naturelles comme une voiture qui manque de le percuter ou un lustre qui s'effondre juste à l'endroit où il déjeune. Ça fait penser à Destination Finale, cette série de films, vous savez, où la mort tentait de rattraper les protagonistes ayant réussi à la déjouer.
C'est comme si tout était écrit et que le temps
luttait. Voilà, il fallait accepter les choses.
Ouais, le temps luttait pour ne pas être changé. Maintenant, par rapport à cette série, dès le premier épisode, vous avez été scotché. Vous vouliez absolument savoir ce qui se passait.
Le premier épisode qui dure 1h30, qui est un pilote, a été réalisé par Kevin MacDonald, donc qui est vraiment un réalisateur établi, qui a réalisé notamment Jeu de pouvoir ou Le dernier roi d'Écosse, un film qui mettait en scène un personnage qui n'est pas forcément recommandable, qui s'appelait Idi Amin Dada. Mais vraiment, cette intrigue de ce point de départ qui est, je vous l'accorde, pas très crédible, vraiment, vraiment sur les chapeaux de roue, et on a envie d'en savoir plus. Et c'est vraiment palpitant, on n'arrive pas à se dire, je vais attendre demain pour voir la suite.
Oui, Geneviève Bridel, au niveau regret, volonté de faire autrement, rectifier le cours des choses, c'est un thème qui est très cher aux écrivains.
Bien sûr, comme la culpabilité et le remords, mais sur l'idée du temps qui se venge, des changements qu'on veut faire, je me dis qu'il y a un livre qui met en relation le temps et l'espace, qui varie selon où on se trouve, et c'est un livre de Philippe Claudel, qui a écrit entre autres Les âmes grises, qui s'appelle Le bruit des trousseaux. C'est un livre tout simple qui raconte son expérience d'atelier d'écriture en prison. Et c'est vrai que la prison, c'est le lieu par excellence où on ne fait pas référence au passé, parce qu'on ne veut pas savoir pourquoi les autres y sont, et on ne fait pas des plans sur la comète, on ne se projette pas dans l'avenir. C'est vraiment le présent, et comme le dit Claudel, la prison déjoue toutes les statistiques, les stéréotypes, les colonnes de chiffres rassurants, elle ne fait que refléter le monde et donc on ne le change pas, on est ici maintenant.
Dans cette série TV, Julien Comelli, alors bon, il y a des gens qui ont réellement existé, Oswald y est par exemple, il y a une espèce de, c'est quoi, un compagnon d'infortune qui est un peu superflu selon vous?
Oui, alors il y a un compagnon d'infortune qui est très très fortuit dans le livre et là on le met comme un personnage principal qui accompagne Jack Epling et puis en fait on se rend compte que dès qu'il est trop impliqué dans l'histoire, on s'arrange pour le faire disparaître parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire.
Ouais, c'est un peu dommage.
Donc ça nous fait juste perdre du temps.
Ouais, mais bon, au final, 22-11-63, bien, pas bien?
Ah ouais, franchement, moi je trouve que c'est une série très agréable. C'est en tout cas la meilleure série adaptée d'un livre de Stephen King pour laquelle il a été impliqué, si on pense à la catastrophe de Shining, sa propre adaptation qui était vraiment un désastre. C'est très agréable à suivre, même si effectivement c'est pas forcément à la hauteur de l'ambition initiale. On aurait aimé quelque chose de plus en face avec les promesses de base, un récit peut-être plus complexe. Le complot contre JFK devient presque secondaire au profit d'une histoire d'amour qui est par contre assez bien menée. Par contre, moi ce que j'aime bien, c'est que cette série a un début, un milieu et une fin. Il y a une saison et forcément il ne va pas y avoir de suite.
Julien.
Comment est-ce qu'on fait pour voir 22-11-63?
Alors elle est sortie en DVD Blu-ray, pas chez nous, mais en Angleterre. Donc c'est compatible avec nos lecteurs. Il y a des sous-titres français.
Bon, bah, voilà. C'est parfait. Formidable. 22-11-63, produit par Gigi Abrams. 7h50, deux campagnes électorales maintenant. D'un côté, les cantonales valaisannes, de l'autre, la présidentielle française. D'un côté, Christophe Darbelay, de l'autre, François Fillon. Le premier a dû faire face à des affiches qui évoquaient son père. Le second est attaqué via sa femme, ses enfants et aussi pour des costumes offerts par un mécène. Le premier sera fixé sur son score définitif demain. Le second déclare « Chaque jour, on descend un peu plus bas dans l'intrusion de ma vie privée. » C'est pas tout faux, Anne-Laure Ganin.
J'aime beaucoup cette phrase. Je suis contente que vous la citiez. Je trouve qu'elle donne un aperçu assez intéressant de ce que serait la vie privée aujourd'hui. Descendre chaque jour un peu plus bas. Alors, si on part du costume, ça nous fait descendre.
Oh là là.
Je vous vois venir. Là.
Moi aussi,
à peu près.
Il en a pas parlé lui-même.
Alors si, justement. Donc, on arrive en dessous de la ceinture. Ensuite, au plus bas dans l'intrusion. Donc, on traverse quelques couches de costume et on arrive effectivement dans les caleçons. Et il en a parlé. Il a dit lui-même, si ça continue comme ça, on parlera demain de mes chemises et pourquoi pas de mes caleçons. Et l'argument a fait mouche, il faut voir si on a le temps, l'entretien sur Europe 1, Radio Française, où on voit tout à coup les journalistes tête baissée, tout silencieux, penauds, parce qu'évidemment c'est très embarrassant d'imaginer François Fillon soudain en caleçon et c'est lui qui nous incite à l'imaginer ainsi. Alors bien sûr, il cherche de cette façon à choquer pour dénoncer cette intrusion dans sa vie privée, mais dans le même temps, ça revient à jouer avec cette tendance à l'exposition de la vie privée et avec surtout les sentiments qu'elle provoque, c'est-à-dire à la fois ce malaise parce que ça va contre la pudeur et puis bien sûr cette part de curiosité un peu excitée. Donc on est proche d'une certaine faction d'une injonction paradoxale, ce qui dénonce un phénomène tout en le servant.
Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça alors? Il veut manipuler?
Alors, je ne lui ferai pas de procès d'intention. On peut même peut-être penser que c'est inconscient, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me paraît intéressant, c'est que ça nous parle vraiment de l'hyperflexibilité parce que de la subjectivité des frontières du privé. Elles sont là où je, tu, vous, chacun décide qu'elles sont. Et ça, c'est évidemment une conséquence du mouvement global, disons, d'individualisation.
Mais jusqu'où on peut aller dans... Quand est-ce qu'on passe la frontière de l'intime ?
Bien, déjà, il faudrait peut-être s'entendre sur cette définition de l'intime. Il y a un ancien professeur de philosophie à Fribourg, François Gachou, qui lui a consacré plus de 200 pages à cette notion. Son livre s'appelle « Explorer l'intime », paru aux éditions La Source Vive il y a quelques mois. Une enquête vraiment intéressante, sous forme de dialogue, comme ça, très accessible aussi, qui met en avant cette notion complexe. L'intime, écrit-il, c'est certainement ce qu'il y a de plus retiré, de plus caché, de plus secret en nous, et c'est aussi ce qui nous appartient. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'est rien qu'à nous et à personne d'autre. Mais alors jusqu'où cette citadelle sera-t-elle,
c'est ma question, oui.
Voilà, sera-t-elle inexpugnable? Oui, merci. Je vous ai perdu. Inexpugnable, ça c'est un terme de François Gachou. Il y a des assauts puissants qui sont menés contre cette citadelle, hein, à l'ère de l'hypercommunication, ouais. De l'exposition de soi à tout bout de champ, de la sensibilisation à la psy aussi, hein, qui est une forme d'intrusion comme ça, et de la pipolisation des politiques. On peut quand même rappeler que François Fillon a participé à l'émission Ambition Intime, hein, qui porte bien son nom. Donc, ce qui est embarrassant, c'est qu'il y a une tendance quand même profondément humaine qui est que plus on en sait, plus on veut en savoir. Et c'est sans fin. C'est surtout impossible de revenir en arrière parce que ça veut dire qu'on redresserait un mur de ce fort intérieur, si on peut dire. Et c'est impossible. Au contraire, plus on abat de murs et plus on veut avancer et faire tomber les suivants.
Julien Comelli, il y a un film sur ce rapport politique intime. Il est sorti en 74. C'est pas récent. Mais c'est représentatif de cette thématique. Ça s'appelle La race des seigneurs.
Ouais, un film de Pierre Garnier de Fer avec Alain Delon, donc quand même pas des moines, mais qui est invisible depuis des décennies, faute à un détenteur des droits qui n'en fait strictement rien. Ça raconte le parcours de Julien Dandieu, interprété par Delon, dans un rôle à complet contre-emploi, qui est un député de parti susceptible de prendre place au sein du gouvernement en train de se mettre en place et qui se rend compte que l'amour qu'il éprouve pour une femme, qui n'est pas la sienne, n'est pas compatible avec sa future position. Il va donc sacrifier son intimité, sa vie privée, au nom du pouvoir. Et c'est peut-être là qu'on voit qu'il y a une différence avec l'actualité des dernières années, puisque je suis pas sûr que Julie Gayet et Carla Bruni étaient franchement un obstacle pour Sarkozy et Hollande. Ça aurait peut-être plutôt aidé.
Ouais, on pourra faire une édition politique, absolument. Peut-être des chroniqueurs du samedi matin. Alors, cinéma, on l'entend évidemment, thématique développée. Geneviève Bridel dans la littérature aussi.
Bah, là, forcément, on parle toujours de l'intimité, mais elle est peut-être fictionnalisée, celle que raconte l'auteur ou on croit qu'on imagine être dans celui du personnage. Mais moi, j'ai retenu cette idée parce qu'elle va bien en littérature aussi, d'une forteresse, d'un endroit qu'on ne peut pas assaillir, et c'est très patent dans le livre d'Anne Brécard qui s'appelle La femme provisoire, où on comprend qu'une femme s'est occupée d'un bébé qui n'était pas le sien, parce que son amant le lui a confié. Finalement, elle est devenue mère malgré elle, et il y a plein de zones d'ombre malgré tout, et ça c'est l'intimité en littérature. Et Anne Brécard dit à un moment, c'est un château où habitent nos fantômes.
Château, forteresse, Anne Lorganac, cette forteresse de l'intime, elle est clairement attaqué dans le cadre de ces campagnes électorales. On assaille la forteresse, on part à l'assaut, quoi.
Mais en tout cas, il me semble que si l'intime, c'est le fond du fond de la vie privée, on y est là, hein, concernant ces affiches.
Affiches.
C'est quand même troublant de voir que ce sont des propos qu'on fait dire à Christophe Darblay sur les affiches. Papa a payé ma campagne. Donc papa, on est vraiment dans le vocable intime. On se met à sa place, dans sa peau, dans sa tête. Ça, ce n'est pas franchir le seuil de l'intimité. Et pareil, finalement, avec cette affaire des costumes de François Fillon, peut-être même de ses caleçons. C'est quoi le caleçon? C'est quand même l'ultime rempart de la sphère privée, hein, ce qui semble signifier. Et c'est juste, parce que derrière ce rempart, bien, il y a ce qu'il y a de plus caché, secret, ce qu'on nomme d'ailleurs des parties intimes, n'est-ce pas?
Oui. Ceci dit, ces affaires, aussi diverses soient-elles, elles ont aussi un versant public, politique. On parle d'argent public, alors ça c'est pour Fillon, on parle d'argent public, de détournement, ou concernant les costumes, de jeux d'influence peut-être.
Exactement, donc ça nous rappelle tout de même que cette frontière, hein, entre le public et le privé, elle est toujours poreuse, et pas seulement dans le cas des politiques. Et même finalement, quand on parle de l'intime, hein, François Gachou, il fait aussi référence dans son livre, parler d'intime, c'est aussi parler de la relation aux autres. On parle notamment de relations intimes. Donc on est toujours dans ce lien à l'autre, même dans l'intime, ces frontières ne sont jamais femme est claire et toujours à redéfinir finalement.
Le livre de François Gachou qui s'appelle Explorer l'intime, paru il y a quelques mois. On a aussi parlé ce matin de cette mini-série 22-11-63. Que feriez-vous si vous pouviez empêcher l'assassinat de JFK? Et puis de ce livre, Mes petits chéris, lettre inédite et délicieuse à ses enfants qui réunit la correspondance de Rudyard Kipling à sa progéniture. Anne-Laure Ganac, Geneviève Bridel et Julien Comilly étaient nos chroniqueuses et chroniqueurs du jour. Je vous souhaite un excellent week-end.
À vous aussi.
Bon week-end. Bon week-end. Profitez bien.
Le samedi, Antoine Drou.